Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf ! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée, réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock et dites-lui s'il vous a plu pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Alors, salut Véro, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps cet après-midi pour qu'on puisse discuter. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter vraiment en deux mots, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et qui tu es ?
Bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Véronique, c'est mon premier prénom. Et ensuite, sur Instagram, je m'appelle Véro Alette. Je suis doula. Et j'ai choisi d'accompagner les allaitements. Donc en fait, quand on est doula, on peut choisir d'accompagner toutes sortes de périodes de la vie des femmes. Ça peut être les premières menstruations, ça peut être les naissances, la grossesse, le postpartum. Moi, j'ai choisi l'allaitement, c'est mon domaine de prédilection. Depuis que j'ai commencé à me former à l'allaitement, je suis allée beaucoup plus loin dans ma formation. Je ne me suis pas arrêtée à celle de doula, j'ai été plus loin. Et j'accompagne aujourd'hui les familles, que ce soit à la mise en place de l'allaitement, à la fin de leur allaitement, à permettre aussi à des allaitements de continuer quand on en a envie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentations des allaitements longs, par exemple. Donc parfois, il y a des mamans qui se retrouvent avec des bambins et elles ne savent pas trop comment gérer leur allaitement, parce qu'elles ont l'impression qu'allaiter à la demande à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Donc, elles font appel à moi dans ces situations-là. Et j'ai créé également un site internet qui s'appelle aimer-maman.fr sur lequel on retrouve justement des formations, des préparations autour de l'allaitement. Également, une boutique en ligne. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et l'idée, c'est aussi que j'ai fourni énormément d'informations gratuites puisqu'il y a un blog sur lequel je réponds aux questions de base que l'on peut se poser quand on commence ou quand on est en plein allaitement. C'est à peu près ça que je fais aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup.
Trop bien. Et cette passion pour l'allaitement, elle est venue avec ta maternité à toi, ou tu avais déjà ça avant ?
C'est une question que je me pose beaucoup, genre à quel moment j'ai kiffé l'allaitement, c'est quoi qui m'a plu là-dedans? Et en fait, je remonte pas mal dans mes souvenirs d'enfance où en fait, j'étais une grande créatrice, enfin, je créais plein de choses. Je créais des histoires avec mes peluches, je créais des dessins, même si je suis une piètre dessinatrice, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. J'écrivais énormément de poèmes aussi. Et j'avais comme une obsession, genre quand je retrouve un peu tous mes documents là que je faisais quand j'étais petite. J'avais une obsession pour les femmes enceintes, les femmes avec des bébés. C'est assez marrant parce que longtemps, j'étais vraiment plutôt dans une démarche, genre je vais avoir une grosse carrière, je vais faire plein de thunes et je vais être directrice d'entreprise. Enfin voilà, c'était vraiment mon premier goal. Et quand je suis devenue mère, bah, ça a commencé progressivement à changer. Déjà, je suis passée de je vais faire mes 3 mois obligatoires et je vais plutôt faire 6 mois avec ma petite. Donc finalement, voilà, le temps d'absence au travail s'est prolongé dans la façon dont j'observais les choses. Et effectivement, un des premiers cadeaux que j'ai reçus quand j'étais enceinte, c'était un livre. Et c'est une copine qui m'a tendu le guide illustré, le guide manuel très illustré de l'allaitement, qui est un des basiques quand on souhaite allaiter. Et elle me l'a tendu en me disant, bah, c'est soit ça, soit un livre sur le postpartum. Enfin, bref, donc je me dis, ok, bah, pourquoi pas, vas-y, donne-moi ça, je vais le lire. Et en le lisant, en fait, je me suis rendu compte de tout l'intérêt de l'allaitement, en fait, et puis à quel point c'était juste ultra passionnant, quoi. Et progressivement, bah, quand j'ai eu ma deuxième, attends, je vais mettre. Quand j'ai eu ma première, pardon, j'ai commencé à allaiter, et c'est vrai que moi, j'ai eu zéro problème. Donc du coup, ça rend les choses assez faciles. Donc du coup, effectivement, quand j'ai eu ma première, j'ai commencé à allaiter, ça s'est super bien passé, il n'y avait aucune raison pour moi d'arrêter. Puis ensuite, vraiment, quand elle a eu 2, 3 mois, j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions de la part de l'entourage en mode, et tu comptes l'allaiter jusque quand? Et puis, évidemment, j'ai commencé à me plaindre du fait que, en fait, c'est fatigant, de ouf, de devenir parent, d'allaiter, les nuits, enfin, tout quoi. Et du coup, forcément, le premier conseil qu'on me répétait systématiquement quand je voulais me plaindre, c'était ah oui, mais c'est normal, c'est parce que t'allaites. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même profondément idiot de faire un truc aussi évident que d'allaiter. Enfin, naturel, quoi, on va dire. Et en même temps, on me reproche que c'est la seule chose que je fais qui est nulle, genre qui marche pas. Donc, comme moi, j'ai un grand esprit de rébellion, je me suis dit, bah, je vais comprendre pourquoi est-ce qu'il me dit ça et est-ce que c'est vrai, quoi. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des démarches et au plus je faisais des recherches, au plus je me rendais compte que non, au contraire, l'allaitement nous aide dans cette partie-là de notre vie. Et du coup, bah, je suis rentrée dans ce truc de je veux allaiter et puis progressivement, j'ai fait 6 mois d'allaitement, puis j'ai fait 1 an et puis en fait, ma fille est toujours pas sevrée et elle a 3 ans, quoi. Et voilà, vraiment, ça s'est fait naturellement, progressivement. Et entre-temps, je suis aussi devenue doula au final parce que j'ai ressenti qu'il y avait plein de femmes autour de moi qui se posaient les mêmes questions et qui avaient la même envie de comprendre, genre, est-ce que c'est complètement fou de vouloir allaiter? Est-ce que c'est si dingue et c'est forcément synonyme de fatigue extrême? Ou est-ce qu'on peut vivre pleinement son allaitement? Et moi, je suis vraiment une fervente de dire, si tu vis un allaitement qui correspond à ton mode de vie, c'est pas supposé être fatigant du tout, en fait.
Trop
Donc
bien.
voilà comment met cette fièvre de l'allaitement.
J'adore. Et donc, tu as deux enfants.
Ouais.
Je crois que tu as accouché des deux à la maison.
C'est ça, chez moi.
Ok. Tu avais quoi comme représentation, toi, de l'accouchement quand tu étais plus jeune, avant de toi tomber enceinte de ta première? Tu savais déjà que tu voudrais accoucher chez toi, ou est-ce que tu avais aussi le schéma classique de l'hôpital et du coup tu as bifurqué? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors moi, c'est simple, c'est que je ne voulais pas d'enfant. J'étais dans une démarche, comme je l'ai dit, voilà, j'étais carriériste, je voulais absolument vivre une carrière. Voilà, c'était pour moi, c'était comme ça que j'allais pouvoir m'épanouir, grandir, être la personne que je suis, quoi. Et donc, dans cette démarche-là, je voulais consacrer essentiellement mon énergie au travail, au management, aux connaissances que je pouvais créer là-dedans. Et c'est fou ce que je vais te raconter, mais du coup, je voulais pas d'enfant parce que je voulais pas aller à l'hôpital. C'est-à-dire que pour moi, naître, c'était forcément ça se passait à l'hôpital. Moi, la seule représentation de l'hôpital que j'ai, c'est mon grand-père qui décède devant mes yeux. Donc, on est à l'hôpital et il décède devant mes yeux à l'hôpital. C'est ma mère à qui je rendais visite à l'hôpital parce qu'elle avait fait une énième tentative de suicide. C'était, enfin voilà, c'était vraiment ultra traumatisant pour moi d'aller à l'hôpital. Donc voilà, pour moi, l'hôpital, c'est ultra traumatisant. C'est pas un moment joyeux. Souvent, c'était, ben voilà, ma grand-mère, elle est malade, ben, on va la voir à l'hôpital. La tante, elle est malade, ben, on va la voir à l'hôpital. Enfin, j'avais vraiment cette image de, oui, mais en fait, là-bas, c'est la mort, en fait. C'est pas du tout, c'est pas la naissance, c'est pas la joie, c'est pas le plaisir. Et au-delà de ça, tant d'habitude, t'es plutôt complaisante quand on te file un coup de bouse. Okay, ça va. Donc, comme je disais, c'était que pour moi, voilà, l'hôpital, c'était vraiment la représentation des choses qui se passent plutôt mal, qui dégénèrent. Et surtout, bah, dans les films, moi, je voyais ces femmes qui s'égosillaient à essayer de sortir un bébé de leur ventre, qui transpiraient, qui étaient aussi vraiment, je trouvais, infantilisées. Déjà, à ce moment-là, j'avais vraiment cette représentation de, pour moi, elles sont infantilisées. J'étais déjà féministe à l'époque. Donc, j'avais aussi déjà aussi cette vision de, non, non, vous ne me traiterez pas comme ça, c'est mort, mais sans être vraiment renseignée sur ce qui était bien et pas bien à faire. Donc, c'est vraiment une vision que j'avais. Et j'ai même toujours eu en tête cette phrase de dire poussez, madame, poussez. Je ne sais même plus d'où ça vient, mais c'est un film, je ne sais plus. Mais... Et toujours quand on... Voilà, quand j'avais l'opportunité de faire la blague, je disais toujours aux gens, mais poussez, madame, poussez. C'était toujours le mot pour faire rire. Mais dans le fin de compte, c'était toujours... Oui. C'était toujours ouais, une vision assez négative de l'accouchement, quelque chose d'assez périlleux, où la femme, bah, voilà, en fait, elle se retrouvait dans un état terrible, en fait, finalement. Donc, pour moi, c'était hors de question que je vive ça. C'était hors de question d'aller à l'hôpital. C'était juste quelque chose qui n'était pas possible. Et puis, même dans la vie, j'avais déjà rencontré pas mal de professionnels de santé pour X ou Y raison, et je m'étais déjà sentie infantilisée au possible. Je me souviens d'un rendez-vous chez une gynécologue. Je m'assieds, elle me dit à peine bonjour. Elle me demande pas comment je vais, rien du tout. Et puis l'entretien se passe et je lui explique que je veux juste une pilule en fait. Enfin, je suis venue parce que je vais reprendre des rapports sexuels et que je souhaite pas avoir d'enfant, donc je veux une pilule. Et elle me parle à peine, elle me demande de m'asseoir sur son siège quoi pour. Et là, elle me sort une échographie quoi. Et tout soudain, elle me dit, bah, je vais le mettre dans votre vagin. Et elle m'explique même pas pourquoi. Et genre, en 2 secondes, en fait, je me retrouve dans une situation, à l'époque, j'ai 19 ans. Donc, j'ai pas du tout conscience de ça. C'est pas normal chez un gynécologue, quoi. Tu fais pas forcément une échographie pelvienne comme ça, spontanément. Et donc, ouais, enfin, je sais pas. Elle commence à regarder mes ovaires, elle regarde mon utérus à l'intérieur. Bon. Moi, je suis un peu choquée. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais eu très peu de rapports sexuels. J'étais pas, voilà, j'étais pas dans une. Enfin, c'était vraiment très étrange pour moi. Et je me dis, mais même ça, je veux jamais le vivre. Jamais, 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 jamais. J'étais vraiment traumatisée d'avoir vécu ce moment avec cette personne. Et du coup, bah ouais, pour moi, c'était non. Et un jour, j'écoutais le podcast de la matrescence, en sachant qu'à l'époque, je voulais pas d'enfant, mais j'écoutais quand même le podcast de la matrescence de Clémentine Sarlat. Et elle invite une sage-femme qui s'appelle Isabelle de Potier, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça son nom. Et elle parle de l'accouchement à domicile. Et là, je me dis, mais quoi? En fait, on a le droit d'accoucher à la maison, c'est quoi cette affaire? Mais je dis, mais c'est génial, en fait. Et là, ni une ni deux, je commence à me renseigner, je regarde à gauche, à droite, et je me rends compte. Il y a une sage-femme qui habite à une centaine de kilomètres de chez nous et qui propose des accouchements accompagnés à la maison. Et je ne sais même pas si elle est disponible, je ne sais même pas comment ça marche, mais j'en ai rien à faire. Je suis en mode, mais en fait, ça va être ma sage-femme. Dans ma tête, c'est elle, ce sera personne d'autre. Elle va être là pour notre accouchement et elle va nous accompagner, quoi.
Mais attends, t'es même pas enceinte là.
Non, je suis même pas enceinte. Et mon mec est même pas au courant que je vais avoir un enfant à ce moment-là. Et lui, il est en mode, ok, on va pas avoir d'enfant, c'est pas notre délire. En plus, autour de nous, il y avait personne qui avait d'enfant. Et moi, je criais et avec ferveur sur tous les toits que jamais, au grand jamais, je n'aurai d'enfant. Donc clairement, c'est un 360 degrés quoi, enfin 180 plus. Et du coup, je me souviens qu'on part en vacances au ski, on est en mois de décembre. Et je dis à mon mec, je dis, en fait, tu savais qu'on pouvait accoucher à la maison? Et puis il est comme, ouais, ok, c'est cool, c'est bien, mais ça, c'est pour les fous. Et je suis en mode, non, non, c'est pas pour les fous, c'est un vrai délire, il y a plein de gens qui le font et tout. Et lui, il travaille dans la santé, il travaille en pharmacie. Et du coup, enfin, pour lui, c'est encore plus important pour lui d'être en hôpital parce que tu comprends, c'est dangereux, gna gna, enfin bon, bref. Et moi, je suis en mode, non, non, tu vas voir, ça va être génial. Et au début, il est en mode, déjà, on voulait pas d'enfant. Et moi, je suis en mode, ouais, mais j'ai changé d'avis. Et au final, il dit, bah, moi, je veux avoir des enfants, mais genre, je pensais pas maintenant, tu penses pas qu'on est trop jeune? Enfin, on avait déjà 27 ans, mais on était en mode, on est trop jeune, tu sais, parce que dans notre tête, on était encore des enfants. Parce que la société aussi nous rappelle qu'il faut faire super gaffe, tu peux tomber enceinte à tout instant, c'est super dangereux de tomber enceinte trop tôt. Hein, alors que 27 ans, tu peux quand même dire que c'est pas trop tôt, quoi. Enfin, je veux dire, on est déjà passé le stade de la grande jeunesse, quoi. Et on décide de mettre en place quand même, enfin, il se passe quelques semaines quand même, je rassure tout le monde, on a quand même quelques semaines de répit avant qu'on décide réellement de mettre en place le projet. Mais on décide d'avoir un enfant. J'arrête donc ma contraception. Et je tombe enceinte, genre littéralement le lendemain, quoi. Genre en mode, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas avoir un enfant, ben voilà, ça y est, t'es servi.
Trop bien. T'avais déjà contacté la sage-femme du coup ou pas encore?
Non, par contre, le moment où je vois le test positif, la première chose que je fais, c'est je préviens une amie à moi, parce que je panique en fait, parce que je tombe enceinte alors que genre, c'était vraiment hyper pas prévu du tout. Et je lui dis, mais en fait, il se passe quoi maintenant? Genre, qui suis-je? Qui vais-je devenir? Mais c'est pas normal, on n'est pas censé tomber enceinte si vite, ça n'existe pas, c'est dans les films. Normalement, il faut un an. Moi, j'avais lu partout qu'il fallait 6 mois, un an pour tomber enceinte. Donc, j'étais vraiment dans cette idée-là. Tout soudain, en fait, ça paraît un peu choquant, tu vois. Et la deuxième chose que je fais, je crois que c'est l'après-midi même où j'apprends que je suis enceinte, j'envoie un mail à cette sage-femme et je lui dis, bonjour, qu'est-ce qu'il en est? Elle me répond pas. Du coup, le lendemain, je l'appelle et je suis en mode bonjour. En fait, je voudrais que vous me preniez en charge parce que je voudrais avoir un enfant. Enfin, je voudrais accoucher chez moi à la maison. Et on est en plein Covid. Du coup, elle est persuadée que je suis en fait une autre personne qui se dit bah non, je veux pas aller à l'hôpital à cause du masque. Non, non, c'était vraiment en mode non, j'ai toujours voulu accoucher chez moi à la maison. Parce que il y avait surtout à cette époque-là, elle était un peu moins ouverte sur toutes les situations, mais en fait l'idée d'accompagner les primipares, donc les personnes qui ont eu un enfant, c'est leur premier enfant, c'est toujours un peu risqué selon certains professionnels et ils sont pas toujours hyper motivés à accompagner les primipares. Et elle, à l'époque, elle était encore un peu sur cet entre-deux de savoir si oui ou non elle se sentait d'accompagner toutes les primipares dans leur projet. Donc l'idée, c'était de savoir d'où venait ma motivation. J'étais en mode, non, mais pour moi, l'hôpital, c'est pas l'endroit où on fait des enfants. Pour moi, l'hôpital, c'est là où on meurt. Donc je veux pas avoir un enfant qui meurt, je veux un enfant qui vive. Donc on va pas faire ça à l'hôpital et on va faire ça à la maison. Donc elle a été une des premières personnes à savoir que j'étais enceinte.
Trop bien. Et du coup, elle t'a dit banco?
Elle m'a dit banco, elle m'a d'abord, voilà, elle m'a donné, comme toutes les sages-femmes qui commencent l'accompagnement d'une grossesse, elle m'a donné des vitamines à suivre, une ordonnance pour la première écho auprès de l'hôpital. Et en fait, comme c'était Covid et qu'elle commençait à accepter de plus en plus de femmes pour accoucher à la maison, parce que, bah, y avait tellement de demandes, parce que les personnes ne voulaient pas accoucher à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment. Donc elle m'a dit, bah, désolée, premier trimestre, je ne peux pas vraiment t'accompagner. Je te souhaite vraiment bonne chance, plein de bonheur. Garde toutes les bonnes énergies pour toi. Fais du mieux que tu peux. Je suis vraiment désolée, mais voilà, on se verra un peu plus quand tu auras passé le cap du premier trimestre.
D'accord.
Et à partir de là, bah, tu seras effectivement tu feras partie des patientes, quoi.
D'accord.
Donc arrivé premier trimestre, on avait un rendez-vous chez elle. Donc je me souviens, c'était absolument magnifique. On était dans son jardin, sous le cerisier, parce qu'on était encore en mode ah, c'est le Covid, machin. On était sous le cerisier, c'est magnifique. On parlait de ça et ben, je me souviens, mon mec et moi, on était genre aux anges, quoi. On voyait bien qu'on était pris en charge par une personne absolument fantastique, qui allait vraiment comprendre notre démarche aussi. Enfin, surtout la mienne, en fait, au final. Mais tu vois, progressivement, en parlant avec mon mec, c'est devenu sa démarche à lui aussi. Parce que c'était notre enfant. Et quand je lui expliquais, ouais, mais tu sais, si on accouche à l'hôpital, ben, c'est le personnel qui sera présent qui va me prendre en charge. Mais toi, tu ne pourras rien faire. Alors que là, si on accouche à la maison, tu pourras être vraiment acteur. Tu vas pouvoir prendre ta fille dans les bras quand elle va naître. Tu vas pouvoir être vraiment complètement dans le truc, quoi. Ce sera ton job de m'accompagner, quoi. Et de là, il s'est dit, bah moi, je veux surtout pas qu'on me vole ça, quoi. C'est trop important.
Très bien. Génial. Et comment se passe ta grossesse? Est-ce que tu as eu des mots particuliers? Est-ce que c'était... un long fleuve tranquille.
Le premier trimestre, il est assez hardcore chez moi, dans les deux grossesses, mais il paraît que c'est de pire en pire au fur et à mesure des grossesses. Du coup, je vais m'arrêter à deux. C'était vraiment le côté, les nausées, les vomissements, c'était vraiment, chez moi, c'était vraiment l'enfer. Donc, j'étais, voilà, j'étais alitée, mais j'ai fait mon taf. L'avantage, c'était que Covid, bah, du coup, télétravail. Du coup, j'ai pu cacher à tout le monde ma grossesse assez facilement.
Ah ouais, pas mal.
Pour ma deuxième grossesse, par contre, non, pas du tout. Bah, j'ai dû me mettre en arrêt. Mais en tout cas, pour cette première grossesse, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième trimestre, rien de vraiment. Moi, il n'y a rien qui me marque. Je me souviens que je vais travailler. Alors, c'était très dur parce qu'il y a une partie qui s'est passée sur l'été. Et je me souviens que dans les locaux de mon travail, il n'y avait pas de clim, si tu veux. Donc, en fait, on atteignait parfois des chaleurs. Enfin, je finissais par terre, en fait. Et je n'osais pas le dire aux gens que en fait, c'était trop chaud pour moi parce que j'étais en mode non, je suis une noire ailleurs, je suis une battante. Maintenant, avec le recul, je me dis enfin, non, je ne suis pas du tout une noire ailleurs. Et puis quand il fait 30 degrés et que tu es enceinte, c'est juste pas possible en fait. Donc, effectivement, ça a été la partie un peu pas cool. Mais au final, ça s'est bien passé et j'ai terminé la grossesse assez bien. Enfin, rien, vraiment la grossesse plutôt cool quoi. Mis à part que j'étais à fond sur il faut que je m'informe au maximum, il faut que je sache tout sur l'accouchement. Mais ça, c'est plus dans mon caractère, en fait. C'est ma personnalité qui. Ouais.
Et quoi, tu l'as mal vécu de vouloir t'informer autant?
Ben, en fait, si tu veux, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais c'était que. Du coup, j'allais chercher toutes les informations. Et les bonnes, les moins bonnes. Du coup, je regardais autant du baby-boom que je regardais des accouchements naturels qui se passaient à la maison. Enfin, je regardais tout, en fait. Je
D'accord.
regardais, enfin, j'écoutais des témoignages de personnes qui avaient perdu leur bébé. Enfin, j'étais vraiment dans le « je veux tout savoir ». 2 secondes.
Du coup, ça faisait un peu beaucoup, quoi. Un peu une surcharge d'infos dans tous les sens.
Ouais, c'est ça.
Je
J'arrivais pas à trier, quoi.
comprends. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passent tes derniers jours de grossesse? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu avais peur du déclenchement? Enfin, est-ce que. Ou est-ce que tu étais sereine sur le fait que ton bébé allait arriver quand il fallait? Et puis est-ce que tu peux ensuite nous mener bah voilà, sur le récit de ton accouchement du premier?
Alors en fait, j'étais plutôt sereine hein, parce que j'étais encore en mode, il fallait que j'étais plutôt concentrée sur des trucs un peu débiles, genre, ah, le parquet du salon, faudrait bien qu'il soit terminé avant que le bébé arrive quand même, ce serait plutôt pas mal. J'étais pas vraiment focus sur le fait que je devais accoucher. Et je me souviens que c'est la veille du terme, de la date prévue d'accouchement, que ma sage-femme m'appelle et elle me dit, coucou, tu m'as pas un peu oublié, on s'est vu il y a 2 semaines, mais tu sais, t'es censée accoucher demain, là. Et je lui dis genre, ah ouais, c'est cool, là je vais à Poitiers, je vais chercher du parquet pour mon salon, enfin voilà quoi, tranquille. Elle me dit d'accord, donc là tu vas faire 1 heure et demie de route, ouais, je comprends, d'accord. Et sinon, bah, peut-être qu'on va se prévoir un petit quelque chose, on va regarder que tout va bien. Puis là je suis en mode, ah bon, pourquoi? Elle me dit non, mais tu sais, Véro, c'est vrai que la plupart des femmes, elles accouchent pas le jour de la date prévue d'accouchement. C'est que 5% des personnes qui accouchent, 5 à 10% qui accouchent le jour de la date prévue d'accouchement, mais. Quand même, on va s'assurer que tout va bien, 40 semaines. Enfin, du coup, ça fait 41, c'est ça. Ouais. Et bah, du coup, elle m'invite à aller faire une échographie. On en convient que c'est absolument pas possible pour nous de le faire à l'hôpital dans lequel moi j'étais suivie au cas où. Parce que dans cet hôpital, ils sont clairement contre les accouchements accompagnés à domicile. Pour te dire, j'ai fait les 3 échographies que j'ai fait là-bas systématiquement. C'était, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous pourriez finir avec une hémorragie, votre bébé pourrait mourir. Et j'étais comme, en fait, c'est dur à vivre quand c'est ton premier parce que ju juste tu sais pas comment se passe une naissance. Et enfin, moi, je me souviens que je sortais parfois de ces rendez-vous et je me disais, mais en fait, je suis une vulgaire égoïste, je pense qu'à mes fesses et je vais tuer mon bébé juste parce que j'ai pas envie d'accoucher. À l'hôpital. Mais qui suis-je? Enfin, vraiment comme si j'abusais de la situation.
Ces gens sont
Heureusement.
insupportables.
Ouais, je suis assez d'accord et je trouve que ça manque de déontologie parce que globalement, c'est pas leur place
Mais
de
non.
décider à ma place ce
Mais
qui est
de
bien et ce
un,
qui est pas bien.
et puis de deux, ils laissent parler leurs croyances à eux. Eux, ils sont flippés de l'accouchement. Pour eux, accoucher, c'est le truc le plus dangereux sur la planète, mais ce sont leurs croyances à eux qui ne sont fondées sur absolument rien, puisque quand tu lis les études, les rapports notamment de l'AAD, en comparaison avec les accouchements à l'hôpital, bah, tous les risques sont amoindris quand tu accouches chez toi. Enfin, donc, juste laisser parler leurs petites croyances personnelles, leurs petites peurs à eux, alors qu'ils ont cette place d'autorité et de sachant. Et donc, il y a forcément un rapport de domination avec toi, patiente. Moi, je trouve ça, mais enfin, bon, ça m'écœure. Mais peu importe.
Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment des... Enfin, je pense que ça va au-delà des croyances, parce que je pense que ça vient aussi du fait que quand tu travailles en hôpital et que tu accouches autant de personnes, mais genre je pense qu'il y en a qui en un an, elles vont peut-être voir 1000 bébés, hein, elles vont les voir naître, elles vont forcément voir tout ce qui se passe bien, mais elles vont aussi voir ce qui se passe mal, voire très très mal. C'est des soignants qui accompagnent aussi des personnes ben, dans des deuils périnataux, qui accompagnent... des hémorragies pour de vrai, des vraies hémorragies, parce que ça arrive, les hémorragies, c'est pas comme un truc qui n'existe pas, c'est vrai que ça existe. Et elles, quand elles travaillent en hôpital, c'est évident qu'elles vont être confrontées à ce genre de choses-là. Et je pense qu'elles partent de ce regard, mais purée, tu sais pas, moi, ce que j'ai vu en salle de naissance.
Mais
Tu
bien
sais
sûr.
pas cette maman qui a perdu ce bébé, tu sais pas cette maman qu'on a perdue en cours d'accouchement, enfin. Je crois vraiment que quand tu vois quelqu'un qui décède, peu importe que ce soit une personne qui a littéralement quelques heures de vie ou qui a plusieurs années derrière elle, je pense que ça reste ultra traumatisant.
Bien
Je pense que
sûr.
c'est des personnes qui arrivent avec leur discours de personnes traumatisées, de ce qu'elles ont vu, qui est catastrophique vraiment et qui est vraiment ultra triste. Et je pense que dans leur tête, c'est mais t'imagines, ça peut t'arriver à toi aussi? Parce que moi, je l'ai vu arriver à des personnes vraiment de façon random en fait. Et ça, je l'entends. Ça, je l'entends. Tu vois, moi, je peux l'entendre.
Mais bien sûr, mais moi aussi en plus, et enfin, tu vois, là je réagis comme ça un peu basiquement, et bien sûr que elle voit des choses horribles toute la journée, et c'est aussi ça le problème, c'est que est-ce que elle devrait voir autant de choses? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas autant d'accouchements qui devraient se passer à l'hôpital. Bon, voilà. Pour les accouchements qui se finissent mal, bah oui, il y en a pour lesquels il y aurait des choses à faire, il y en a pour lesquels il n'y avait rien à faire. Donc peut-être est-ce qu'être à l'hôpital, c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Enfin, bon. Et puis, il y a quand même ce truc de ne pas prendre le recul, de bah, parfois la médicalisation, elle engendre des problématiques qui peuvent se finir dramatiquement. Donc il y a aussi ça. Donc je sais bien que le personnel médical n'a pas forcément la capacité à prendre le recul parce que elles sont débordées, il y a aucune reconnaissance sociale, elles sont mal payées, elles font des horaires. Enfin vraiment, enfin vraiment, ce métier devrait être bien plus valorisé, et vraiment elles travaillent dans des conditions, pardon, qui ne sont pas OK et qui ne leur permettent pas de prendre le recul et de se dire mince. Est-ce qu'on ne fait pas des conneries aussi, nous, en tant que soignants? Et peut-être que de là, elle pourrait travailler à, bah oui, à accompagner différemment les accouchements. Et moi, je suis intimement persuadée, mais ça, c'est mes croyances à moi, et ce sont aussi des croyances, mais qu'elle verrait moins d'horreur.
Je l'espère en tout cas. Moi, c'est mon souhait, c'est-à-dire c'est mon souhait qu'on apporte un peu plus de physiologie à l'hôpital, parce que je pense que l'hôpital ne doit pas disparaître, parce qu'il doit exister pour les personnes qui ne
Qui en ont
pourraient
fait.
pas se sentir à l'aise d'accoucher chez elles ou d'accoucher même en maison de naissance. Il y en a qui ont besoin de savoir qu'à 1 mètre de leur, tu vois, 1 mètre d'elle, il y a le matériel nécessaire pour faire une réanimation. Et bien que les... Dire quand même, les sages-femmes qui viennent accompagner à domicile, ce ne sont pas des sages-femmes qui viennent les mains vides. Moi, ma sage-femme, systématiquement, les 2 fois, elle arrivait avec des sacs Ikea, là, de remplis de trucs dont elle pourrait potentiellement avoir besoin. Elle les met discrètement dans un coin de la maison, mais ils sont là. Et là, là-dedans, il y a de quoi réagir en cas de problème. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne viennent pas les mains vides. Elles ne viennent pas comme si... elles venaient, je sais pas, genre, prendre le thé, quoi. Elles sont vraiment en mode... Potentiellement ça se passe super bien, mais potentiellement il peut aussi y avoir voilà une réaction. On sait pas pourquoi ben, ça commence à se passer mal et ben faut pouvoir réagir assez rapidement. Donc, moi en tout cas, je sortais de ces rendez-vous-là vraiment dans le doute et je me disais, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Et aujourd'hui seulement, j'ai le recul de me dire, ok, ben voilà, en fait, elle voit des choses tous les jours, c'est atroce, mais c'est sûr qu'à l'époque, j'avais pas ce recul-là. Pour moi, elle me disait juste, en fait, c'est dangereux d'accoucher à la maison. Et comme c'était mon premier bébé, ben forcément, j'étais encore plus angoissée, quoi. Mais bref, en tout cas, j'étais assez tranquille. Donc, sur la fin de grossesse, comme je te dis, j'allais faire des kilomètres et des kilomètres avec mon beau-père. Je l'appelais le matin. Bah, viens, on va aller faire ça dans tel magasin pour aller acheter ci, pour faire ça, parce qu'il faut préparer. Mais en fait, j'étais en pleine enfin, nidification, quoi, mais je m'en rendais pas compte.
Bien sûr.
Et ma sage-femme, disait, tu vois, elle me disait, mais Véro, là, c'est plus le temps de préparer, là. C'est le temps de laisser venir. Et j'étais comme, non, non, mais attends, je vais encore faire ça. Et puis, enfin bref. Et le lendemain, du coup, j'ai pas été à la date prévue d'accouchement j'ai pas été à la maternité. J'ai refusé de faire ça. J'ai reçu un coup de fil de la maternité qui m'a demandé de venir faire une échographie de contrôle qu'on propose à 41 plus 1. Enfin, j'ai pas refusé, mais j'ai dit genre, ouais, je passe plus tard, j'ai un truc à faire. Et puis après, j'ai pris un rendez-vous chez une sage-femme, donc justement de nouveau à 100 km de chez moi, qui acceptait de faire des échographies justement de dépassement de terme. Et elle m'a fait la fameuse échographie. Et sur le chemin, donc je suis avec mon compagnon je sens mon bébé qui bouge bien, je le sens bien, je me sens connectée à elle. Je me dis, ah, ça va être génial, ça va être cool, bientôt elle va arriver. Enfin, je suis vraiment dans une attitude positive. Et puis, en milieu du chemin, je dis, oh, imagine, elle nous dit un truc qui fait peur. Et là, mon mec, il dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire, elle va bien, t'inquiète pas, tu la sens bouger, elle va bien, tout va bien aller. Et tout soudain, on est dans sa salle d'attente, et là, je commence à trembler, je suis pas bien, je suis en mode, non, faut pas qu'on y aille, ça va pas, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas, enfin bref. Et mon mec, il essaye de me rassurer, mais il a un petit peu, il comprend pas trop ma réaction, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. On va juste faire une échographie de contrôle, quoi. On se met sur la table, elle me passe la sonde. Il se passe pas 2 secondes et puis là, elle fait, ah, bah, il y a plus du tout de liquide amniotique là. Ah, ça va pas du tout ça. Et je stresse. Enfin, je suis en mode quoi, pardon. Puis là, oula, ouh, il y a plus rien là. Vous voyez là sur l'image, oh, il y a plus rien, il y a plus de liquide là. Oh là, la pauvre bébé. Je suis en mode, ok, horrible. Donc là, je me mets à. Enfin, j'explose, je suis en pleurs direct, quoi. Genre, j'arrive plus à respirer. Je me dis, mais non, mon bébé.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Il faut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Enfin, je me mets à trembler, je suis pas bien. Là, mon mec, il sait pas comment réagir et je vois bien il a envie de lui faire du mal à cette femme parce qu'elle n'explique pas du tout les choses en fait. Elle n'explique pas pourquoi il n'y a pas de liquide amniotique, qu'est-ce que ça signifie. Enfin, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Donc, je me pose des questions, quoi. Et puis alors là, il me dit, elle enchaîne tout de suite en disant, bon, bah, j'appelle la maternité, vous allez aller à la maternité tout de suite. Là, je les appelle pour dire que vous arrivez. Et elle n'arrête pas de répéter ça, en fait. Comme il faut aller à la maternité, aller à la maternité, vous alliez tout de suite. Puis on était là en mode, bah non, on va quand même passer à la maison, récupérer des affaires, quoi. Enfin, peut-être, ah, non, non, allez-y tout de suite, c'est pas grave, sinon monsieur, vous irez récupérer les affaires après. En fait, elle savait que la maternité, elle se situait entre là où elle était et notre maison. Donc, si tu veux, si on rentrait chez nous, potentiellement, on ne retournait pas à la maternité. Alors que si on allait directement de son rendez-vous à la maternité, bah en fait, on était sûr qu'on finissait à la maternité, quoi.
Ouais.
Mon mec, il commence là, il se met en mode OK, Véro, elle a perdu le sens de la raison. Elle est en mode mon bébé. Et donc, il se met entre elle et moi et il commence à parler pour moi, en fait. Et du coup, moi, ça me permet de me calmer aussi, parce que du coup, je prends un peu de recul. Et il se met entre les deux et il dit oui, on va aller à la maternité, vous avez raison, pas de souci, vous avez raison, on va pas à la maison, vous inquiétez pas, oui, d'accord, je comprends, je comprends. Et on sort de là, on rentre dans la voiture et je suis en mode ok, donc maintenant qu'on va à la maternité, puis elle dit mais Véro, mais t'as complètement, ça va pas ou quoi? On va pas à la maternité là maintenant. Et puis je suis en mode mais t'as entendu ce qu'elle a dit la dame? Et puis il me dit bah non, déjà on va appeler notre sage-femme, on va voir ce que elle en pense. Parce qu'elle, on ne la connaît pas, on l'a vue qu'une seule fois dans notre vie, on ne sait pas ce qu'elle pense réellement de l'accouchement accompagné à domicile. Donc on va d'abord appeler la sage-femme et après on va prendre une décision. Donc là, effectivement, on appelle la sage-femme et elle m'explique, elle me dit, bah, écoute, oui, ça arrive de temps en temps, mais elle me dit, comment tu sens ton bébé? Je dis, mais moi, mon bébé, il va bien, je ne comprends pas. Elle me dit, OK, bon, on va se concentrer là-dessus. Tu sens bien ton bébé, tu trouves qu'il va bien. OK, ce que je te propose, tu viens à la maison, on fait un monitoring, on voit comment se comporte le bébé avec les contractions que tu as, parce que j'en avais déjà en fait, hein. On voit comment ça se passe et en fonction, on agira, on fera quelque chose ou pas. Donc là, on rentre à la maison. Donc on refait une centaine de kilomètres, on rentre à la maison. On va faire nos affaires comme si on allait à la maternité, du coup. Donc, on fait notre petite valise et tout, au cas où. Ça, c'était consigne de notre sage-femme. Je me souviens qu'on est tellement pas bien qu'on va chez les parents de mon mec en mode. On avait besoin de câlins, quoi. On avait besoin de personnes qui allaient nous rassurer, qui allaient nous dire que ça allait le faire. Et c'est un peu triste, mais je me souviens qu'il y avait des membres de notre famille qui, en apprenant ça, commence à nous dire, mais il faut aller à l'hôpital, surtout arrêtez avec votre délire, ça va pas du tout. Et là, je suis comme pas bien, parce que je me dis, waouh, je suis partagée entre tous ces gens qui ont leur opinion sur ce qui doit se faire. Et ouais, c'est ma belle-mère, je me souviens, elle me prend dans les bras, puis elle me dit, mais ça va aller, vous allez accoucher à la maison, tu vas voir, je le sens bien. Et rien
Ah.
qu'elle me dit ça,
Merci, belle
et
maman.
je fais, ok, ça va le faire, quoi. J'étais vraiment rassurée. Du coup, on a suivi voilà, les conseils, donc on a fait nos affaires et on a pris de la route, donc on a refait 100 km pour aller voir notre sage-femme. Ouais, bah, tu me diras, ça déclenche les accouchements à ce qui paraît, donc au moins on était sur la bonne voie. Donc on refait 100 km, on arrive chez elle, je suis encore un peu tremblotante, puis après, elle avait une façon, enfin cette sage-femme, elle est incroyable, vraiment, ce serait incroyable qu'elle ait pu transférer son savoir à plus de personnes. C'est vraiment dommage qu'elle parte bientôt à la retraite, mais elle avait une voix, façon de poser la voix, de te calmer, de t'apaiser, de vraiment remettre l'église au milieu du village. C'est vraiment la meilleure façon de le décrire, quoi. Et là, elle prend le monitoring, la première chose, elle prend le monitoring, elle l'installe, et directement, elle montre, regarde, regarde ce qui se passe sur le tracé. Ton bébé là, ce tracé-là, c'est le même que celui qu'on a dans les magazines de sage-femme. C'est le meilleur tracé qu'on pourrait avoir. Ton bébé, il réagit super bien à chaque contraction. On voit bien le cœur qui s'emballe. On voit bien l'effort qui se met en place. Tu as déjà des contractions. Donc ça, c'est bien. Et là, elle nous dit, écoute, malgré tout, je ne pourrais pas vous accompagner au-delà de ce qui est raisonnable. Donc, elle nous dit, si le bébé vient pas cette nuit, on ne pourra pas aller plus loin dans notre accompagnement et il faudra que tu ailles à l'hôpital pour te faire déclencher. Donc, elle me
Normalement,
dit, c'est...
pardon, normalement c'est
Comment?
KPSA, non?
Alors oui, mais à condition qu'il n'y ait pas de pathologie qui vienne poser des questions.
Ah, mais c'est pas
Et malheureusement,
ah. Bon, bref.
c'est considéré, en tout cas dans l'accompagnement accompagné, dans l'accouchement accompagné à domicile. Il considère que l'amniogénèse, non, le fait qu'il y ait plus suffisamment, si c'est amniogénèse, le fait qu'il y ait plus suffisamment de liquide amniotique, c'est potentiellement, ça peut être un signe en fait d'une problématique au niveau du bébé en fait.
OK.
Ça peut être signe de rien, comme ça peut être signe de quelque chose. Donc en fait, à partir du moment où il y a trop de doutes, il n'y a pas de doute, on va à l'hôpital.
OK.
Et du coup, elle nous donne quand même, elle nous offre 24 heures supplémentaires. Donc elle dit. Si on fait les choses bien, que le travail démarre dans les 12 prochaines heures, je vous accompagne. Si le travail n'est pas déclenché demain matin, donc dans les 12 heures qui suivent, ben faudra aller à l'hôpital.
Cette pression quand même que ça te met sur les épaules là. Et sur les épaules de ton bébé, quand tu vis.
Moi, je l'ai bien vécu parce qu'en fait, il était temps pour moi que je réalise que j'allais être mère. J'arrivais pas à réaliser que j'allais être mère. Et quand cette femme me dit qu'il faut aller à la maternité, enfin cette femme, c'est sage-femme, me dit, faut aller à la maternité, votre bébé, faut qu'il arrive là dans les prochaines 24 heures. Ça m'a mis comme un, eh oh meuf, t'as oublié que t'étais enceinte, que t'allais accoucher, qu'il y a un bébé qui allait sortir de toi? T'as oublié que t'allais devenir mère ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et ça m'a mis un, en fait, ouais, ce bébé-là, il va venir, il va être là, il va être dans nos bras. Et ça y est, c'est fini le temps de faire grandir le bébé. Maintenant, c'est le temps de le faire vivre, quoi. Et moi, ça m'a fait du bien qu'on me mette un peu cette deadline. Or, tu vois, je suis TDAH, j'ai besoin de deadline dans ma vie. Bah là, je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme stop, Véro, stop, arrête tes conneries là, arrête d'être à gauche, à droite. C'est pas en lisant un livre de plus ou en écoutant un podcast de plus que ça va venir. Là, va falloir qu'il sorte. Donc, j'ai fait. Enfin, vraiment, je l'ai bien. Enfin, je l'ai pas mal vécu. Ce que j'ai mal vécu, c'est la manière dont la sage-femme, elle est arrivée en mode comme si mon bébé, il allait mourir, quoi. Alors que pas du tout. Donc, effectivement, ça, c'était vraiment plus voilà, qui m'a un peu choquée. Mais tu vois, je suis revenue avec ma sage-femme, elle nous a offert 12 heures de plus. Là, elle nous a proposé du coup un décollement de membrane. Moi, ça m'a paru tout à fait sensé dans notre situation. Donc, j'étais en mode, je prends tout, vraiment, je ferai ce qu'il y a à faire. Donc, vas-y. Je connaissais les risques, je savais très bien ce qui pouvait se passer. Donc, elle nous l'a réexpliqué avant de procéder. Donc, vraiment, voilà, on savait tout ce qui pouvait se passer si on faisait un décollement de membrane. Donc, on a choisi de le faire. Grâce au décollement de membrane, ben, le travail s'est mis en route, en fait. Très vite après, on est rentré chez nous. Elle nous a dit, bon, maintenant, il faut marcher, hein. Donc, on était un 3 décembre, on s'est mis à marcher dehors alors qu'il pleuvait. Comme c'était Covid, il n'y avait pas un chat dehors. Du coup, on était seuls avec des décorations de Noël partout. Enfin, c'était assez magique comme moment. Et au bout d'un moment, je suis fatiguée. Je dis, non, je veux rentrer. On rentre, on s'assied dans le canapé. Et puis là, j'ai plus de contractions. Et là, je dis, c'est mort. Va falloir accoucher à l'hôpital. Du coup, j'appelle la maternité. Je leur dis, voilà, je devais venir ce matin. Je suis pas venue. Est-ce que vous voulez que je vienne maintenant? Puis là, la meuf, clairement, elle me dit, bah moi, j'ai pas de salle pour vous, il y a trop de monde, non, laissez tomber, restez à la maison. Puis ce matin, c'est marrant parce que ce matin, c'était une urgence absolue, mais là, maintenant qu'il est 23 h, c'est bon, tu peux rester dormir chez toi, tu reviens demain matin.
Mais
Je
comme
dis,
quoi,
ok, il y a quand même.
c'est complètement
Il y a
arbitraire.
deux sondes. Oui, voilà, c'est complètement arbitraire, c'est en fonction de eux, comment ils sentent, et clairement,
Bien sûr.
entre-temps, les chambres ont dû se remplir, quoi.
Et c'est jamais une question de vie ou de mort dans l'urgence, comme ils veulent nous le faire croire, quoi. Et ça, c'est bon. Bon, donc du coup, quand même, hyper cool. Les planètes qui s'alignent. Oh, bah non, il n'y a plus de place, ne venez pas.
C'est ça, hyper cool, les planètes s'alignent, ne venez pas. Et on décide, je dis, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, demain, le bébé il va venir, donc il faut qu'on dorme parce qu'il faut être reposé, ça prend de l'énergie, donc viens, on va dormir. Donc on part se coucher, on joue à un jeu de société avant, si on se dit, oh, vas-y, on a le temps. Il n'y a plus de contraction, il n'y a plus rien, mais on est cool. Et c'est un peu un moment de bliss, tu vois, un truc un peu de dernier moment ensemble, un peu ce dernier repas, tu vois. Et juste avant d'aller se coucher, je prends une douche parce que j'ai mal au dos d'avoir marché autant avec le bébé et les contractions. Je suis quand même à 41 semaines, donc voilà, j'ai bien tiré sur la corde. Je prends une douche et là, je vide. C'est important pour la suite de l'histoire. Je fais vraiment une longue douche, tu vois. Je vide la moitié du ballon d'eau chaude, j'en profite, je kiffe à mort. Je me dis, de toute façon, c'est bon, demain, c'est fini. Et on se couche, il est peut-être 23 h, minuit. Et je me réveille plusieurs fois pour aller aux toilettes. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes pendant la grossesse, j'avais systématiquement des contractions. Donc pour moi, ça ne me semblait pas bizarre. Donc j'allais aux toilettes, j'avais des contractions, je retournais me coucher. Et je fais ça, mais je ne me rends pas compte parce que je suis dans mon sommeil, mais je dois le faire 3, 4 fois d'affilée. Jusqu'à un moment où j'essaye de revenir des toilettes et là, je fais, ah, les contractions, elles sont sérieuses quand même. Finalement, je m'installe dans le lit, j'essaye de dormir et puis, ah, une autre contraction. Et puis là, je fais. Ah, et je commence en fait progressivement à me plaindre, mais dans ma tête, c'est mort, le travail, il n'a pas commencé. De toute façon, demain, il faut aller à l'hôpital, donc on n'a pas le choix, blablabla. Enfin voilà, je suis dans un autre mood, quoi. Et là, mon mec se réveille et puis il fait, ça va? Et puis je suis en mode, ouais, ça va, ah, ça va. Et puis je repars sur une autre contraction. Puis il me dit, mais t'es en travail, là? Puis je dis, non, 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 il est quelle heure, là? Il est 3 h, je crois, un truc comme ça. Donc ça faisait presque 1 heure que j'avais sans cesse des contractions. Puis je dis, ah bon, ah ouais, non, bizarre, non, mais c'est pas ça, t'inquiète pas. Puis, ah, autre contraction. Puis je me mets sur le ballon, ah, autre contraction. Puis là, je dis, ah, tu veux pas appeler quand même notre sage-femme pour voir ce qu'elle en pense, si c'est ça ou pas? Donc il appelle la sage-femme et puis elle dit, elle est hyper contente, elle est en mode, c'est cool, continuez comme ça, j'ai foi en vous, ça va le faire. Mais là, je vais dormir, donc rappelez-moi quand ça va mieux. Enfin non, rappelez-moi quand ça va pas du tout. Du coup, donc là, on part en mode, j'ai contraction sur contraction, puis ça s'emballe assez rapidement, à mon sens. À un moment donné, on descend, là, on n'est plus du tout sur le pré- on descend, je veux dire, on va dans notre salon, on n'est plus du tout sur le pré-travail, les contractions s'enchaînent, j'ai mal, ça force. Et là, mon mec, il dit, bah, si tu veux, je mets la piscine. Je dis, vas-y, je veux la piscine, installe-la. Je regarde pas trop, je vis mes contractions, il se passe probablement tes 3 quarts d'heure, un truc comme ça, la piscine elle commence à être bien remplie quoi. Et je le regarde et je dis putain t'as pas mis le liner. Et là il fait quoi? C'est quoi le liner? Le liner c'est obligatoire, faut que tu mettes le liner. Et là, il fait merde. Et franchement, mon mec, c'est un mec génial, mais quand il fait des bourdes, il se sent pas bien après. Tu vois, il est vraiment en mode merde, j'ai fait des bourdes. C'est la première fois que je le voyais gérer son émotion en mode ok, c'est pas grave, je vais vider la piscine, t'inquiète pas, je vais remettre de l'eau. Tu vas attendre un peu, hein, c'est pas grave. Je dis non, non, c'est pas grave, vas-y, remets le liner. Du coup, il était vraiment hyper. Je l'ai pas reconnu. J'étais en mode. Et avec le recul, une fois que l'accouchement s'était terminé, il me dit, mais à ce moment-là, j'ai cru que j'allais me pendre. J'ai cru que j'allais péter un câble. Genre, je savais pas quoi faire. Mais je me disais, si Véro, elle voit que je vais pas bien, elle va plus gérer ses contractions. Donc, il était en mode, non, faut que je gère mon émotion, faut que je sois à fond et tout. Donc, il a continué son taf, il a vidé la piscine, il a remis le liner et là, il a essayé de mettre de l'eau. Et l'eau, elle était froide à ce stade. Parce que j'avais déjà pris la douche de l'enfer la veille. Il avait déjà rempli une partie de la piscine. Donc là, en plus, on en avait une grande. Donc là, c'est l'enfer. Il se demande comment il va faire. Et là, je lui dis, écoute, ça va plus. Il faut que tu appelles notre sage-femme. Là, je voudrais qu'elle vienne à la maison. J'ai besoin qu'elle soit là. Donc, il appelle la sage-femme qui vient accompagner du coup de sa doula. Et elles viennent à deux. Et donc, elles mettent 1 heure à peu près pour arriver. Lui continue d'essayer de remplir cette piscine. Finalement, bah, c'est ouais, ça s'enchaîne, ils n'ont pas le choix là, il faut faire des casseroles. Donc heureusement, chez nous, à l'époque, il y avait 2 cuisinières, parce qu'on a un appartement en dessous de notre maison, et à l'époque, c'était encore possible d'accéder à la cuisine du bas. Du coup, il y avait 8 à 8 casseroles qui chauffaient en même temps pour de l'eau chaude. Donc ça, c'était vraiment intense. Et bah, la doula, la sage-femme, elles se mettent à remplir, ils sont tous les trois à se relayer pour faire chauffer l'eau, mettre dans la piscine, chauffer l'eau, mettre dans la piscine, jusqu'au moment où je me souviendrai toujours. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils se relaient pour mettre les casseroles d'eau dans la piscine, mais aussi pour me donner la main. Donc, à chaque fois, j'ai la doula, puis j'ai la sage-femme, puis j'ai mon mec, puis enfin voilà, ça s'enchaînait, et à chaque contraction, j'avais le droit à une main qui venait, et j'en avais vraiment besoin. Genre, dès que j'avais une contraction, je tendais la main, genre, je savais pas de qui allait arriver, mais je tendais la main et. Je savais que je pouvais attraper. Ouais, j'avais besoin de ce sentiment de ne pas être seule au moment où je vivais la contraction, quoi. Quand je les vivais seule, c'était vraiment difficile pour moi. Et tandis que quand j'avais quelqu'un pour, voilà, pour me tenir à quelqu'un, c'était vraiment trop bien. Et ce qui est marrant, c'est que pour mon deuxième accouchement, ça a été l'inverse. J'étais en mode, ne me touchez pas, j'ai pas besoin de vous. Je sais faire. Laissez-moi tranquille. Donc vraiment, ça a été deux fois deux ambiances.
Bien.
Donc voilà, donc ils se sont relayés, puis finalement il est venu le temps où ma sage-femme est venue me glisser à l'oreille, est-ce que tu voudrais potentiellement aller dans la piscine? J'étais en mode pardon, je me suis levée, je me suis déshabillée, j'étais à poil en même pas à la moitié de mon salon, j'étais déjà à poil, j'arrive dans la piscine, il y avait quelqu'un qui me glisse, tu veux pas garder quand même un truc sur toi? J'étais en mode non, non, c'est bien, donc j'étais toute nue là, j'étais trop fière. Et là, je vais dans la piscine et je fais ah oh, putain, ouais, c'est ça. Genre, c'était vraiment trop, trop bien. Genre, là, je suis en mode, ok, c'est bon, je peux continuer, j'aurai l'énergie. Mais là, j'arrivais un peu à ma limite, quoi. Donc, ça continue comme ça s'ouvre, je sens bien. Je suis vraiment relaxe, je suis vraiment dans mon monde. D'ailleurs, sur toutes les photos, c'est assez parlant parce que j'ai ni mes lunettes et j'ai tout le temps les yeux fermés. Et tu vois, encore une fois, avec mon deuxième accouchement, l'inverse, j'ai les yeux grands ouverts et j'ai tout le temps mes lunettes. Enfin voilà, deux salles, deux ambiances, quoi. Donc, comme quoi, un accouchement et pas un autre, même à la maison, quoi. Je suis assez détendue. Mon mec, à un moment donné, me rejoint dans la piscine. Enfin voilà, on se fait des câlins. Par moments, il n'y avait ni la doula ni la sage-femme avec nous. Donc, moi, je savais qu'il y avait des astuces pour un peu gérer la douleur. Donc, bah, on se fait des gros câlins. Moi, j'hésite pas non plus à mettre ma main, essayer de voir ce qui se passait, pourquoi pas me stimuler un peu. Et alors, c'est marrant parce que je l'ai fait vraiment naturellement, parce qu'à ce moment-là, c'était pas du tout conscient. Et puis après, j'ai conscientisé que j'étais moi-même en train de me soulager, tu vois, de façon un peu. Donc, clairement, j'étais en train de me masturber pour essayer de soulager la douleur, comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Mais en fait, au départ, je l'ai fait. Ben, ça fonctionnait, en fait, ça me détendait de ouf. C'est-à-dire que ça me permettait de dormir.
Non. Trop bien.
Alors, c'était pas une masturbation comme on pourrait faire pour tenter d'obtenir l'orgasme. C'était vraiment plus une masturbation comme vraiment comme je sais pas, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te rajoute un petit peu de plaisir. Enfin, pas de plaisir, mais voilà, ça me permettait de me détendre, de me relaxer en fait, de détendre les épaules, de détendre la mâchoire. Et à l'époque, j'ai pas beaucoup de connaissances sur l'accouchement, donc c'est vraiment spontané ce que je fais. Je suis plus renseignée à l'époque sur l'allaitement pour le coup. Et donc, et voilà, on a des moments doux à deux, on est vraiment tranquille, on se fait des bisous. Puis à un moment donné, ma sage-femme, elle me propose éventuellement d'aller vérifier à combien de centimètres je suis, parce que j'arrêtais pas de me plaindre. Je disais, ouais, c'est bon, c'est quand, c'est chiant, j'en ai marre, j'ai faim. Et on me donnait à manger, non, j'ai pas envie de manger, mais tu dis que t'as faim, je ne vais pas manger, foutez-moi la paix. Donc j'étais vraiment dans la contradiction, j'étais, ah, c'est bon, j'en ai marre. Et d'ailleurs, c'est marrant, sur les vidéos, je dis, c'est bientôt fini, non? Non, il reste du temps. Et donc, elle me propose gentiment, elle me dit, est-ce que tu veux que j'aille voir à combien de centimètres t'en es? Est-ce que ça avance ou pas? Je dis, ouais, vas-y. En fait, ce que je savais pas, c'est que depuis le début, je sentais la main, la tête de ma fille, en fait. Donc, je sentais bien que ça avait avancé. Et donc, elle me dit pas à moi à combien de centimètres je suis. Là, c'est la première fois que j'ouvre les yeux parce que je vois bien qu'elle parle à mon mec. Enfin, je sens bien qu'ils sont en train d'essayer de communiquer à deux. Et donc, j'ouvre les yeux, mais vraiment tout petit. Et là, je vois bien qu'elle fait à mon mec un signe genre 8 cm, tu vois. Et là, je fais yes, je suis à 8 cm, je suis trop contente, tu vois. Mais elle veut pas me dire. Et je lui dis quand même, ça va? Elle me dit, c'est bien, tu es dans ton chemin. J'étais en mode, bien sûr, 8 cm, tu parles, il va arriver cet enfant. Et j'étais vraiment fière, j'étais vraiment bien et tout. Et puis à un moment donné, quand même, on sent que les contractions, elles s'arrêtent juste après ça. Parce que je crois que j'étais en mode, bon, ben en fait, j'ai fait le taf. Donc j'étais un peu en mode, je repars à la fainéantise, quoi. Parce que c'est ma grande profession, ça. Là, elle me dit, Véro, tu veux pas te mettre un peu debout? Peut-être que tu irais aux toilettes? Parce que là, t'as pas été aux toilettes depuis le début. Voilà. En fait, depuis le début de l'accouchement, j'ai pas été aux toilettes. Sauf que j'ai pas bu non plus, j'ai pas mangé. Enfin, voilà. Ça, elle le savait pas trop, mais j'avais pas bu du tout d'eau. Donc elle me propose d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Alors je savais bien qu'il y avait cette histoire de ça te permet de te dilater. Et en fait aux toilettes j'étais pas bien du tout. Il faisait froid dans mes chiottes. Il fait froid. Il y a pas de chauffage. Enfin bon bref. Et puis en plus de ça je sais pas. Il y a la doula qui arrêtait pas de vouloir que je mange. J'étais juste en mode non j'ai pas envie de manger. Foutez-moi la paix. J'étais vraiment en mode ah vous m'emmerdez tous là. Vous me faites chier. Vraiment je dis banco ce que je pensais. C'était juste voilà foutez-moi la paix quoi. Donc après. Elle me dit, bon, ben Véro, viens, on va aller dans le salon. Est-ce que tu veux retourner dans la piscine? Non, je ne veux pas aller dans la piscine. En fait, je commençais à trouver qu'il faisait trop chaud dans la piscine. Elle me dit, est-ce que tu veux essayer de t'asseoir sur la chaise d'accouchement? Enfin, c'est une chaise sur laquelle tu t'assieds, un tabouret plutôt. Il y a un trou dedans, comme ça, si jamais le bébé sort, bah, il sort, voilà. Alors, je dis, d'accord, si tu veux. Elle me dit, allez, mets tes mains sur le mur, pousse dessus. Je dis, non, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je faisais semblant pour lui faire plaisir, mais en vrai, j'en avais rien à foutre. J'étais en mode, non. Ça me plaît pas. Puis après, elle me dit, sinon tu peux essayer de t'accroupir. Et là, je la regarde et je fais, t'accroupir? Qu'est-ce que ça veut dire, s'accroupir? Et là, elle me regarde, elle me fait, non mais tu te moques de moi, genre, est-ce que tu veux t'accroupir? Et je dis, je sais pas ce que c'est s'accroupir. Je dis, tu peux me montrer c'est quoi s'accroupir? Du coup, elle me fait, elle rigole, tout le monde rigole et ils font, ok, elle est dans sa bulle, c'est bon, le bébé, il va débarquer, ça va pas tarder. Voilà. Donc tout le monde était rassuré au final parce qu'il devait être midi, un truc comme ça. Quand elle me dit ça, elle se met accroupie, elle me propose de le faire. Je me mets accroupie, je suis là, genre, pire position de l'histoire de l'humanité. C'est hors de question que je me mette dans cette position. Du coup, je suis en mode non, c'est mort, je me mets pas comme ça. Bref, on essaye, en fait, on enchaîne plein de positions vraiment physiologiques. Et à un moment donné, elle me regarde et elle fait, Véro, est-ce que tu veux t'allonger dans le canapé? Et là, je fais, ouais, ça me plairait. Et donc, je vais m'allonger dans le canapé. Donc, je suis sur le dos. Je suis en position gynécologique, tout le monde. D'accord? Écoutez bien ce que je vais raconter. Parce que je vais accoucher en position gynécologique alors que j'accouche chez moi à la maison. Et oui, ça peut arriver. En fait, là, il se passe que je monte mon sommet, comme on dit, hein. J'arrive au sommet du truc. Et là, je fais, sinon, on va à l'hôpital. Et là, ma sage-femme, elle fait, parce qu'elle est très respectueuse de tout ça, elle dit, si tu veux, on va à l'hôpital. C'est toi qui décides. C'est toi qui es aux rênes. Moi, ce bébé, je vois sa tête, c'est toi qui vois. Et mais c'est toi qui vois. Mais du coup, il y a ce truc de. Dans ma tête, je fais, putain, ce serait quand même chiant d'aller à l'hôpital parce qu'au final, il faut qu'on se mette dans la voiture, qu'on fasse le trajet, qu'on arrive là-bas, que les gens ils nous parlent, qu'ils nous demandent comment est-ce que ça va. Qu'en plus de ça, moi, je voulais une césarienne à ce moment-là. Je suis en mode, je ne veux pas accoucher, je veux une césarienne, s'il vous plaît. Je veux qu'on me coupe et qu'on m'ouvre, comme si c'était plus facile, alors que pas du tout. Donc là, je suis en mode, je réfléchis à le mec qui va devoir m'endormir, la rachianesthésie, anesthésie. Enfin, j'ai bien le processus en tête et je me dis, ouais, mais si on fait ça, il en reste encore pour 3-4 heures facile. Et là, je suis en mode, non, j'ai pas le courage de faire 4 heures encore d'accouchement, c'est mort. Et là, dans ma tête, je te jure, je suis partie directement sur ma plage favorite à Saint-Martin, là où mon mec et moi on s'est rencontrés. Donc je suis sur mon île là, je suis sur la plage, et d'un coup je fais, allez, je vais le sortir le bébé. Chaque contraction, je poussais, mais je sais pas d'où venait cette meuf. Elle venait pas de quelqu'un que je connaissais, mais en tout cas elle existait à l'intérieur de moi. Et donc là, je me suis mise à pousser ce bébé en dehors de moi. Et du coup, bah là, tout le monde avait bien compris que j'étais en pleine poussée. Du coup, tout le monde me soutenait, tu vois. C'était en mode, vraiment comme dans un film pour le coup, c'était en mode, allez, vas-y, Véro, vas-y, ça va le faire, ça va le faire et tout. Vas-y, Véro. Et j'en avais vraiment besoin parce que je donnais tout. J'étais vraiment en mode, je veux que ça sorte. Et ma fille, l'air de rien, ça faisait un moment, bah ça faisait depuis midi qu'en fait j'étais dilatée à 10. Donc ça faisait un moment qu'elle était engagée dans mon canal et que en fait j'arrivais pas à, enfin, pas que j'arrivais pas à la sortir, c'est que je sais pas, j'étais pas dans le truc, il y avait un truc qui me manquait. Et puis quand j'ai commencé à faire l'effort expulsif et de le soutenir avec vraiment mon corps et mon esprit, de dire je vais sortir ce bébé, c'est moi qui vais le faire, là ça m'a permis de sortir ma fille.
Parce que attends, il était quelle heure du coup?
Là, il est 13h quand je te parle. Là, ça fait plus d'une heure que je pousse, hein, comme que je suis dilatée. Ça fait plus d'une heure que je suis à 10. Je sens, en fait, je mettais ma main, mais je sentais la tête de ma fille, mais je ne savais pas ce que c'était, si tu veux. En fait, comme elle avait des bourrelets, parce que en fait, c'est pas tout lisse, mais en fait, je ne comprenais pas ce que c'était. C'est con, mais il m'a fallu comprendre que c'était en fait le crâne de ma fille qui était là, à ma portée, quoi. Donc ça, c'était assez stupéfiant. Et à regarder, je pense que j'aurais vécu les choses différemment, je pense,
Le miroir.
si j'avais compris. Ouais, voilà, j'aurais peut-être eu besoin d'un miroir pour comprendre que c'était ma fille, mais tu sais, je pense vraiment qu'à certains moments, ma sage-femme me faisait comprendre que c'était elle, mais j'y arrivais pas à comprendre ça en fait. J'arrivais pas à associer que c'était possible que ce soit réellement ma fille qui était là. Parce que dans tout ça, je n'avais jamais accouché. Tu vois, j'avais jamais donné la vie, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et ça reste tellement une expérience nouvelle que je me dis, en fait, à tout moment, il peut y avoir autre chose qui va se passer que réellement un bébé qui va sortir de là. Vraiment, jusqu'à la fin, il y a un doute dans ma tête. Et donc, bref, là, tout le monde me soutient, tout le monde m'encourage. Et je pousse un long moment quand même. Faut bien en avoir conscience. Mais comme on a respecté la physiologie, bah, tu vois, à un moment donné, on voit la tête, j'ai la vidéo, mais on voit la tête de ma fille qui est sortie qu'à moitié. Mais alors, tu verrais ça à l'hôpital, ils tireraient dessus sans aucun problème. Mais on voyait que la demi-tête, donc il n'y avait vraiment pas. Ça s'arrêtait juste au niveau des yeux, tu vois. Et genre, à un moment donné, elle me dit, bah regarde, il y a sa tête qui est à moitié sortie. Ouais, c'était vraiment ça. Et du coup, genre, elle me dit, vas-y, touche et tout. Et puis alors, je touche avec ma main et je me rends compte, mais enfin, c'était juste surréaliste que j'ai ce truc qui dépasse de moi. Et j'avais pas de contraction, donc j'étais revenue à la normale. Et j'étais en mode, mais ça, c'est actuellement à l'intérieur de moi. Genre, c'est le délire.
C'est ouf.
Contraction suivante. Là, je sens le cercle de feu. C'est hyper drôle parce que pendant tout ce temps, mon mec, il est en mode, vas-y, c'est dans la tête, vas-y, vas-y, force. Et au moment du cercle de feu, genre, je hurle en faisant, ah, c'est la première fois que je dis vraiment, genre, ah, ça fait mal. Et puis là, il fait, non, c'est dans la tête. Et puis là, t'as la sage-femme et la doula qui font, non, c'est pas que dans la tête. C'est hyper drôle parce que du coup, genre, pendant un moment, j'étais là, ah ouais, c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression de me déchirer en deux quand même. Et puis après, elles deux qui me disent genre, non, non, t'inquiète, Véro, c'est normal. Et puis, ouais, effectivement, la tête, elle est passée. Quelques secondes après, ben, t'as le corps qui vient. Enfin, c'était vraiment la puissance. Et puis, ben, là, c'est mon mec, du coup, qui se penche, qui l'attrape, qui la met sur moi. Moment trop beau, ma fille arrive sur moi. Et là, je suis en mode, enfin, c'est l'extase, quoi. C'est vraiment l'extase. C'est un vrai bébé à l'intérieur de moi. Elle est arrivée, enfin c'est juste, enfin, je veux dire, c'est magnifique quoi. Je veux dire, il n'y a rien de descriptible à ça. C'est, je la vois, j'hallucine, mon mec se met à pleurer, on s'embrasse, on se dit je t'aime, ce bébé qui est enfin là, qu'on attendait, qu'on est trop fiers d'avoir avec nous. Oh, à mon avis, elle va pas être contente. Ouais, je sais. Donc on est vraiment en extase totale face à ce bébé qui nous a rejoints. Et là, bah, c'est le bliss quoi pendant une, je sais pas, je dirais une demi-heure, on observe ce bébé, il est sur moi, il se passe rien. Puis là, il y a quand même ma sage-femme qui dit, bon, écoute, Véro, ça fait 30 minutes, là, on aimerait bien que le placenta, il arrive. Et c'était comme, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi, tu vois. Et par contre, elle me dit, bah là, faut qu'il vienne parce que sinon, on doit faire un transfert. Et parce que là, ça faisait longtemps. Et du coup, bah là, elle me dit, écoute, on va quand même essayer quelque chose, hein. Donc, elle me propose de mettre mon bébé au sein, donc on met le bébé au sein. Je suis vraiment. Et là, au moment où le bébé commence à s'agripper au sein, à ma fille, là, tout de suite, les hormones, hop, recontraction. Là, je réalise qu'il faut accoucher du placenta. Je remets un peu les esprits en ordre. Et là, je me dis, OK, bah, je vais le sortir. Il n'y a pas de problème. On va le sortir si c'est un problème. Et je le sors. Et alors, c'est hyper drôle ce que je dis. Ah, c'est dégueulasse! Parce que cette sensation de gluant qui te passe par le vagin, c'est juste. What? Je m'attendais pas à ça.
Ouais, c'est vraiment la sensation est pas ouf.
Non, pas dingue. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle rigole. Elle me dit, alors des accouchements, j'en ai vécu, parce qu'elle est en fin de carrière quand même, ma sage-femme. Elle me dit, mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Je dis, bah, c'est que les autres, elles n'ont pas osé te le dire, parce que c'est dégueulasse. Je dis, oh non, c'était vraiment cette sensation de gluant qui passe par le vagin, là. Je dis, non, pas fun. Donc, voilà, après, bah, le placenta, il est né. On a attendu qu'il soit tout blanc. Et puis après, elle a proposé, elle nous a dit, bah, vous voulez faire quoi? Là, on a coupé le cordon. Et c'est vrai que c'est marrant, mais tu vois, j'ai refait un accouchement avec elle 3 ans plus tard. Et je suis sûre que les choses ne se seraient pas passées pareil, ce premier accouchement avec elle. Parce qu'elle a, en 3 ans de pratique d'accouchement accompagné à domicile, elle a elle-même blindé, évolué dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qu'elle propose. Tu vois, par exemple, pour le deuxième, on a dit, ben non, on ne veut pas couper. Elle a rien dit. Elle a fait, OK, ben je vous laisse, ciao. Enfin, vraiment en mode. Faites
Ouais.
comme vous le sentez, les gars. Du coup,
Ouais.
notre fille, elle est restée attachée à son cordon longtemps. Enfin, la deuxième, du coup, elle est restée plus de. Sans mentir. En fait, on s'est endormis. Là, pour le coup, le travail, il avait commencé à 21 h. J'avais même pas dormi du tout.
Ouais.
Et du coup, bah, j'étais crevée, j'étais épuisée. Elle est née à 8 h du matin, mais voilà, il fallait que je dorme. Ma deuxième, j'entends. Et bah, du coup, le cordon, on a même oublié de le couper, quoi. Enfin, on a mis longtemps à le faire. Du coup, il y avait un vieux sac plastique à côté de nous. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça s'est super bien passé, c'était magnifique. Alors, c'était génial parce qu'après, elle nettoie tout et range tout, les piscines, les machins. Nous, on était à trois dans le canapé, à se découvrir, à se regarder, à s'observer. Puis après, à un moment donné, mon mec, il a commencé à mettre de la musique, mais oh là là, mais c'était, je ne sais pas expliquer. Bah, quand ma deuxième est née, j'ai dit, je veux pareil, je veux que tu nous mettes la musique à un moment donné. On fait venir notre grande. Enfin voilà, c'était vraiment. C'était le bliss, il n'y a pas d'autre terme. C'était la magie de la naissance. C'était trop beau, quoi, vraiment.
Tu le racontes, oh là là, je le, c'est comme un film quoi. Je le vis, je l'apprécie. Trop bien. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Je me dis, est-ce que ton deuxième accouchement, il est aussi cool?
Il est aussi cool, il est même beaucoup plus cool parce qu'il vient avec l'énergie de
Ah.
je l'ai déjà fait. Donc
Bon.
il n'y a pas du tout ce stress, il n'y a pas du tout.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.